Salut à tous, c'est Jean Côme et bienvenue dans Le Cockpit, le podcast sur la prise de vue FPV. Aujourd'hui, on accueille dans le podcast David Aspen de la team Mistral, un homme qui a une très très grande passion pour le drone et la prise de vue en drone. C'est l'un des acteurs historiques en France vu qu'il faisait partie des premières races et aujourd'hui on le retrouve à la tête de Mistral Drone, une société spécialisée dans les prises de vue aériennes. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter cette conversation. David a une passion sans limite pour ce qu'il fait tous les jours. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce podcast, un peu plus long que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bon alors David, tu fais partie des premiers noms de pilotes français sur lesquels on tombe quand on commence le FPV. Et bon, déjà ça s'explique parce que tu as une frame qui est présente chez Liftoff. Donc tous les débutants qui font du simu, ils voient la K47. Mais aussi, bon, t'as quand même une sacrée ancienneté dans le domaine. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi le drone et le FPV ?
Alors ben, tout d'abord merci, parce que ça fait plaisir de savoir ben, qu'on ressort parmi les premiers. Effectivement, quand quelqu'un recherche du FPV en France, qu'on arrive là, c'est quand même une reconnaissance, j'ai envie de dire. Ça a commencé comment ? Ça a commencé il y a près de 10 ans, en fait. Truc tout bête, tu vois, avec mon meilleur pote, on se chauffe pour acheter un drone. Ça venait d'être à la mode, entre guillemets. Donc, tu vois, on s'achète le petit Ubsan H107, là, qui était la petite bidouille qui marchait mieux, en fait, que les drones de merde du supermarché. Donc on se renseigne un peu sur des forums, tout ça, on commande ça. Donc on rigole, on s'amuse avec, etc. Et puis, eh ben, tu sais, au fur et à mesure, t'as envie d'upgrade un peu le truc. Donc t'achètes ta petite caméra de merde en 1080p que tu mets dessus. Et tu fais des images. Au début, t'hallucines parce que tu vois cette qualité-là. Tu dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Bien sûr, quand t'as pas d'œil, en fait, parce que quand on voit maintenant l'évolution, c'est assez fou. Et un jour, ben, on tombe sur une promo sur le Parrot Airdrone. Chris l'achète. Donc Chris, c'est mon meilleur ami. Et moi, je voulais l'acheter. Et puis au final, je l'achète pas. Et le lendemain, en me levant, je dis, ouais, c'est bon, je vais l'acheter et tout. Mais il était remonté au prix normal. Et de là, ça m'a gonflé. J'avais pas envie de le payer le double. Et je recherche, tu vois, je me renseigne sur le truc. Et je me renseigne sur les drones, vraiment, comment ça fonctionne, etc. Et DJI venait de sortir le tout premier Phantom. Et de là, ben, j'ai acheté ce fameux Phantom. Et ben, bien sûr, ben, quand tu commences à toucher des machines qui volent un peu mieux que ton Ubsan et avec lesquelles tu as plus de capacité, ben, c'est sympa. Et ben, après, pour la faire courte, ben, j'ai rejoint un club d'aéromodélisme pour en apprendre un peu plus. Et puis, j'ai acheté beaucoup d'avions, d'hélicos, de conneries pour voler parce que ça me faisait triper jusqu'au jour où j'ai trouvé une vidéo sur Internet avec des mecs qui faisaient les cons avec du drone FPV.
Ah, celle d'Ergonet, c'est ça ?
C'était avant Ergonet, Ergonet. Ben, en fait, j'ai reçu mon premier drone FPV d'Ergonet, j'ai dû voir la vidéo peut-être un mois après, un truc comme ça.
Ah oui, ok, donc c'était vraiment le momentum où tout a chamboulé.
Voilà,
quoi,
le moment où en France, en fait, le FPV est né.
Voilà, c'est ça, ouais.
Si on peut dire. Donc de là, ben, c'est vrai que tu connais que dalle, t'as pas forcément envie de lâcher des sous dans n'importe quoi, surtout que quand tu trouves sur des sites ben, des moteurs, tu sais pas comment ça marche, des contrôleurs... les cartes de vol, c'était archaïque. Ils récupéraient des accéléromètres de radiocommande de Wii, de Nintendo Wii, justement, pour faire les cartes de vol. En fait, la multi-Wii, la carte de vol multi-Wii, elle vient de là, en fait.
Ok.
Parce que c'était les accéléromètres contenus dans les télécommandes
oui,
de Wii.
Dans le Joy-Con, ouais, c'est ça. Ok, d'accord, je
sais
pas.
Ben, aujourd'hui, on se fout de la gueule de DJI avec leur god télécommande, mais en fait, c'est juste une télécommande de Wii avec laquelle tu pilotes ton drone.
Ok, c'est
drôle. On est revenu
10
ans en arrière. Et de là, ben ouais, ben je commande un peu à droite à gauche le matériel en Chine, au Canada, en Australie et tout. Et ben tout ce bordel arrive sur mon bureau. Et je dis, bon, les cours de soudure de techno, c'était il y a longtemps. Donc on va voir. Et puis je soude mon premier quad, trop content. Il n'y avait pas trop de soudure hein, sur les premiers, parce que c'était, tu sais, t'avais les connectiques bullet pour les moteurs, pour les ESC aussi.
Okay.
C'était du PWM, donc t'avais une fiche servo par ESC.
Ouais.
Et tu le clippais en fait sur ta carte de vol. Donc c'était vraiment pas trop de soudure.
D'accord, il y avait moins de soudure, intéressant.
Et j'ai monté mon premier quad comme ça, je vais au terrain de modélisme, je décolle en stationnaire, tu vois, à vue.
Ouais.
Trop contente d'avoir le quad qui vole, c'était du 3S à l'époque, je crois que les moteurs c'était du 1704, tu vois, un truc ridicule qu'aujourd'hui même pas on les met sur un cinéma.
Ouais, c'est ça.
Et j'étais là, je dis, ouais, tout c'est trop bien, et tu sais, quand tu mets le moindre petit coup de gaz là, t'as cette espèce de sensation, tu dis, wow, c'est puissant.
Ouais.
Et là, j'ai un moteur qui désynchronise, le quad il tombe, le châssis se pète. Donc c'est la frustration quand t'as attendu des semaines de recevoir tout le truc.
Oui, tu l'as fait voler 30 secondes, le bordel.
Et là, je dis, non, c'est pas possible et tout. Et de là, ben, j'achète un châssis carbone, parce que le premier était en espèce de je sais pas, c'était pas de l'ABS, c'était un genre de plastique comme les DJI F450 à l'époque.
D'accord, ouais.
Et de là, ben, j'ai monté mon premier quad carbone. Chris, bien sûr, dans la foulée, il emboîte le pas et il en monte un. On commence à faire les cons, ben, un peu à la Ergonée dans les bois.
Ok.
Et de là, ben, on se retrouve, ce qui a vraiment créé le truc, on a été invité à une course au domaine du Planet. Je crois que c'est Hobby Wing qui avait organisé ça. Hobby King, pardon, la boutique Hobby King qui avait organisé ça.
Ouais.
Et c'était en gros la première race FPV en France. Et là, il y avait ben, Metal Danny qui était un des gars les plus suivis de l'époque. Il y avait des gars d'Arconé, il y avait un peu de tout ce cercle fermé, parce qu'on était très peu à l'époque à voler.
Ouais.
Et on a passé un week-end exceptionnel quoi, à se découvrir et tout. Et là, à ce truc-là, il y avait Sky Hero qui avait débarqué avec les premiers prototypes du Anakin, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ou si tu as connu ça.
Non, non, pas du tout.
C'était un châssis avec des bras tubulaires et un carénage dessus, qui était magnifique. Et moi, en voyant ça, je me dis, waouh, tu vois, les mecs, ils font du design, c'est beau, et on discute. Et ils m'ont donné une canopée, c'est de leur drone qui était un peu abîmée sur le côté, parce que je trouvais ça super beau, le design du truc. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la canopée, je prends des morceaux de carbone qui traînaient, je me fais ce que j'avais appelé à l'époque un Sky Clodo, tu vois, c'était le drone récup de Sky Hero, et je poste ça sur Instagram, ou sur Facebook, je me rappelle plus. Et le gars de Sky Hero me contacte et tout, il me dit, ouais, ça te dit pas on t'envoie un châssis, tu nous fais une review, etc. J'aime bien ce que tu fais et tout. Alors moi, les reviews et tout, j'y connaissais que dalle. Et de là, ben, j'ai fait ma première vidéo avec le Sky Hero Anakin. Drone
Ok.
FPV Racer m'a envoyé toute l'électronique ben, pour le monter.
Mais
Pareil,
non.
DFR, c'était les débuts de DFR. Ça venait d'ouvrir, donc il m'avait envoyé ça. Et de là, ben, on a enchaîné avec beaucoup de marques qui nous ont fait confiance parce que justement, ils ont vu que ben, qu'on était les gens, si tu veux, un peu implantés à cette époque-là en France. Il y avait Pablo aussi, Pablo Sautès, à ce
Ok.
moment-là, qui faisait des vidéos. Et puis, ouais, on faisait de la race, quoi. Les week-ends, c'était cool d'aller se faire des trucs entre potes. Jusqu'à finir, ben, à Dubaï, en 2016, au championnat du monde. Ça, c'était un peu la dinguerie. Ben, grâce à Sky Hero, hein, parce qu'on s'est qualifié avec eux. Et on est allé là-bas, ben, dans l'équipe, du coup, Tornado X-Blade, qui avait plusieurs pilotes qui étaient assez bons, on va dire, dont Luc qui a gagné la compétition. Et nous, du coup, ça nous a permis d'aller ben, jusqu'en finale avec un des autres pilotes, etc. Enfin, c'était une
Trop bien.
expérience de psychopathe.
Ouais, tu m'étonnes.
Et le final, c'est que quand tu rentres, ben, tu fais des races en France ben, qui n'ont plus rien à voir. L'ambiance a changé, parce que tu sais, après, c'est devenu l'appât du gain. C'était plus, entre guillemets, cet esprit de fraternité.
Oui, bah je pense que la première race, c'était un peu le côté genre chacun faisait un truc dans son coin et puis en fait on se rend compte que bah en fait on est plein à faire la même chose et c'est trop cool. Mais là effectivement il y a plus ce côté découverte, ça devient une vraie discipline et c'est autre chose quoi, ouais.
Mais en fait, à Dubaï, moi, ce qui m'a plu, c'est que tous les pilotes, avant la finale, se sont réunis et en fait, on voulait partager les gains. C'est-à-dire, il y avait 1 million de dollars à la clé, mais on les partage à part égale entre tous les finalistes et on fait ça ben, au fun, quoi. Tu vois,
Ouais.
on a envie de s'amuser, on n'a pas envie que l'argent vienne pourrir ce hobby. Et ça a été refusé, bien sûr, parce qu'à Dubaï, si tu parles pas de moula, ben, c'est pas content. Donc, ils voulaient vraiment le million de dollars pour le gagnant, quoi.
Ok.
Donc ben, tout ça se passe, on rentre en France, on fait ça, et ben, j'habite à La Ciotat, dans le sud de la France, et ben, autour de chez moi j'ai des falaises, j'ai la mer, j'ai des endroits assez jolis, et
Ouais,
donc quand
carrément.
je me retrouve à faire des races dans un champ avec 4 gates et 3 drapeaux, ça me casse fortement les couilles, et je me fais chier. Et puis c'était les gars, ouais et tout, machin, il m'a brouillé, la fréquence et le machin, je veux revoler,
En fait, tu t'es rendu compte que la race, c'était pas bon. T'es finalement pas trop ton truc, quoi. C'était plus la passion du FPV, comment la vivre, c'était
C'est
autrement.
ça, moi c'était la passion du FPV, je voulais juste kiffer voler. Alors j'aimais bien faire des races avec mes potes ici, tu vois, parce que bah, c'était toujours le petit chambrage bon enfant et le bon esprit. Mais sur d'autres races, non, tu vois, les nouveaux arrivants et tout m'ont saoulé.
Ok.
Pas tous,
Oui, non,
effectivement,
mais
mais
on
voilà,
met personne
faut pas
dans
faire
le
de
même panier,
généralité, il y a des
mais.
gens adorables là-dedans, tu vois. J'ai vu les débuts de Kylian, d'Arkex, tu vois, qui déjà. Lui m'a énervé, tu vois, il est arrivé, il était trop rapide. J'ai dit, j'arrête, je prends ma retraite. Et donc, ouais, après, bah, j'ai fait un premier vol dans des falaises, en fait, à côté de chez moi. J'ai eu une sensation de malade. Je croyais que j'allais tomber, en fait. Je pilotais debout, tu sais, pour faire le mec, tu vois, à l'époque. Et en fait, je suis parti en faisant un backflip, en me jetant dans la falaise à l'envers. Et c'était pas une bonne idée, parce que j'ai failli tomber. Et la sensation que j'ai eue, en fait, de vertige et de waouh, d'adrénaline, ça, c'était encore 10 fois plus
Ouais, c'est
puissant que
assez
mon
ouf,
premier
ça.
vol en FPV en race. Et donc, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire du freeride, je vais kiffer. Et de là, bah, en fait, freeride, vidéo à la con, purement pour m'amuser. Et un jour, bah, j'ai rencontré un gars sur un truc de Monster Truck et Motocross, que j'étais allé filmer pour le fun. Et le gars m'appelle, ouais, ça te dit de faire un clip et tout. Et comme j'étais professionnel, moi, depuis 2017, en fait, mais je pensais pas vivre vraiment ou même faire des prestations FPV. Je faisais du Phantom, du Mavic, de l'Inspire comme tout le monde, quoi.
Ouais.
Et de là, on me demande de faire ce clip que je fais. C'était un petit clip d'un artiste pas trop connu et tout. C'était sympa, tu vois, bonne ambiance, beau décor, beau paysage. Et puis, tu sais, le côté image, en fait, commençait de plus en plus à m'attirer. Et de là, ben, ça a enchaîné très, très vite. Parce que dans le clip, il y avait une fille qui, du coup,
Ouais,
était...
c'est toujours comme ça, c'est du réseau qui se crée depuis
C'est
un
ça,
premier
mais celui-là,
truc
c'était
et
énorme,
ouais.
quoi. C'est la fille, donc, petite tenue, on va dire, petit string, petit maillot, tu vois, sur la plage. Je sais pas, elle avait l'air de se faire chier. Au moins, je lui dis, bah, écoute, vas-y, va courir en string sur la plage et je te filme avec le drone. Mais moi, je dis ça comme je te dis une blague, tu vois.
Ouais.
Et elle me regarde, elle me fait, ah ouais, d'accord. Bah, vas-y. Et je l'ai filmé, je l'ai mis dans mon petit best-of, tu vois, de fin d'année. Ça a été repartagé, c'était vu par des boîtes de prod. Une semaine après, je me retrouve sur un tournage beaucoup plus sérieux avec un clip de Benjamin Biolay au circuit de Charade à Clermont-Ferrand, qui est magnifique d'ailleurs. Et je me retrouve à suivre des voitures de course à l'ancienne. Pour un clip, et là je dis waouh, ça déchire. Et une semaine après, je fais un clip de rap, et là, confinement. Donc je me dis putain, juste quand ça commence à être cool. Et qu'en plus, j'avais arrêté mon activité principale quelques semaines avant parce que ben, fin de contrat, etc. Donc je me dis, ben, écoute, autant tenter ma chance. Et donc il y a eu ce putain de confinement. Et putain de confinement qui fait qu'avec un pote, on fait des demandes d'auteur pour voler dans Marseille qui ont été acceptées.
Oui, ça va,
Et
elles sont
là, on.
devenues connues, tes images, effectivement, ouais, à Notre-Dame de la
Ouais,
Garde.
ben la plus connue, c'est quand je dive du coup Notre-Dame de la Garde, la
Mais.
Bonne Mère comme on dit chez nous, et quand je me retourne, si j'arrive de derrière, et si tu veux, je fais un POI en me retournant et en
Ouais.
retombant comme ça. Merci le Mistral d'ailleurs, parce que sans Mistral, tu ne peux pas faire ce plan. En fait, comme tu es à l'envers,
Ouais.
ton drone ne demande qu'à avancer, et là le Mistral me faisait reculer. Donc ça m'a permis de faire un plan qui est totalement pas
Ok.
normal en fait. Et de là, ben pareil, tu vois, expérience qui a été assez dingue parce que le gars nous a laissé l'intérieur de la basilique pendant 1 heure, nous a dit faites ce que vous voulez. Donc on a fait du cinéma à
Putain.
l'intérieur. Il nous a même fait visiter jusqu'à tout en haut. C'est-à-dire tu peux monter dans la statue. La statue fait 12 mètres de haut. Il y a un petit escalier à l'intérieur en colimaçon et quand tu arrives
Mais
dans
non.
la tête de
Ok.
Notre-Dame de la Garde qui doit faire 1 mètre de diamètre à peu près, ben, tu peux voir par ses yeux, en fait, c'est deux trous de la taille d'une balle de tennis avec vue sur le vieux port. Donc quand on dit qu'elle veille sur le vieux port, ce n'est pas une
Ok.
métaphore, c'est la pure vérité, quoi.
Énorme. Mais c'est ça qui est trop bien avec les tournages, avoir accès à tous ces endroits-là,
Ben ça,
c'est
moi je
trop
pensais
cool,
que
quoi.
ce truc-là, ça serait l'apogée du truc. Et après, ben ça a fini sur plusieurs clips jusqu'à ce que je fasse ben, bande organisée de Jul et toute l'équipe de rappeurs marseillais, qui là par contre m'a clairement intégré dans le milieu du rap et m'a fait faire des tournages pour Ninho, Alonso, Naps, Jul, SCH, Sosomanes.
Oui, puis à Marseille, il y a de quoi faire en termes de rappeurs.
Ouais, il y en a un stock. Mais j'ai même fait du parisien, hein. J'ai fait du
Ouais.
Ninho, Bramcito, Booba. Et Booba, d'ailleurs, le truc, l'anecdote de Barjo, je me fais le clip de bande organisée au Vélodrome. Et je me retrouve à tourner plusieurs fois au stade Vélodrome, donc ça me plaît, tu vois, c'est un peu les deux endroits en Marseille où tu rêves de voler, c'est la Bonne Mère et le
Ouais.
stade Vélodrome. Puis le
Ouais,
fait d'avoir
carrément,
fait
ouais.
les deux, tu dis, putain, tu...
Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant, quoi?
Ben ouais, tu te dis, je suis au max. Et un jour, mais un truc improbable, je fais une presta à Marseille, je rentre chez moi en voiture, il y avait bouchon, et je fais ce qu'il faut pas faire, tu sais, je check mon téléphone. Et là, un mec sur Instagram, il dit, oh, t'as un numéro et tout, j'ai peut-être un projet à te proposer, ça t'intéresse, c'est un tel qui m'a donné ton numéro. Et le gars, il me dit, ouais, j'ai un clip à, enfin, j'ai un teaser à faire pour un live d'un rappeur, etc., nanana, à Paris, est-ce que tu te déplaces? Je dis, bah, oui, bien sûr, je suis déjà allé à Madagascar travailler, en Espagne et tout, il n'y a pas de problème. Et le gars, il me dit, bon, ben, j'ai vu ton taf, je kiffe ce que tu fais, machin, il m'a dit que je pouvais te faire confiance, parce qu'en fait, on avait un réal en commun, vous connaissez. Il m'a dit, ben, c'est pour le teaser du concert de Booba au Stade de France, faut que tu viennes dans une semaine au Stade de France. Ok, autant région parisienne, machin, laisse tomber. Ça part en visio, en machin, en truc avec toutes les autorités, on arrive à avoir le truc goupillé en 4 jours. Et donc, on
Oh,
monte
c'était
au
bien
Stade
ça,
de
putain,
France.
ok.
Et là, je me
Trop bien.
retourne sur le toit du Stade de France. Et le gars, il me dit, vas-y, kiffe.
C'est trop ça, en plus il sait pas quoi te dire le gars, donc il peut que te dire ça,
Mais
quoi.
carrément, parce qu'en fait, au téléphone, ils sont, enfin, au téléphone pendant la visio, les gars, tu sais, quand tu bosses sur des trucs comme ça, t'as tellement de monde qui fait ce genre de choses que t'as beaucoup, entre guillemets, de personnes pas trop sérieuses. Et là, quand t'arrives, le mec, il dit, ouais, alors le drone, il faut pas qu'il dépasse tel endroit, l'altitude de ci, le machin. Toi, t'es là, tu dis, bon, allez, comment on va faire? Ça va me faire chier. Et quand t'arrives sur place, le mec, super sympa, tu discutes, là, tu trouves plein de délires en
Non,
commun,
mais
de
je pense
conneries.
qu'une fois que tout est réglé, c'est bon, hein. C'est juste, il donne les consignes avant, il te fait chier, puis après, une fois sur le
Mais
moment,
carrément,
go,
parce que
quoi.
sur le moment, je lui dis, bon, je suis obligé de me limiter à ça, là, parce qu'il y avait un truc, en fait, qui m'emmerdait. Il me dit, non, c'est bon, vas-y. Ben, vas-y, alors, bon, sans dépasser non plus les limites
Oui, non, mais
de
bien
la
sûr, mais.
sécurité, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ouais, j'ai fait des images de... Ben, c'était un gros kiff,
Trop bien.
je suis là, la petite sudiste qui habite à côté de Marseille, qui se retrouve sur le toit du Stade de France, tu vas surplomber ce truc énorme, là, à voler. Je dis, bon, ben, ça va, c'est cool. Et là, tu dis
Ouais.
encore, je suis au max,
Et
tu
là, tu
vois.
dis, je kiffe mon métier aussi, tu vois. Genre, rien que comme on t'en parle, tu vois bien que tu
Carrément,
kiffes, quoi.
carrément, parce que c'est des expériences qui sont exceptionnelles. Après, comme autre truc de fou, quand pareil, un gars, il y a un Anglais qui vient faire des images au circuit Paul Ricard pour championnat du monde de trottinette électrique. Moi, je savais même pas qu'il y avait des courses de trottinette électrique, tu
Alors,
vois.
ça,
Bah.
moi non plus, ouais.
Mais championnat du monde, tu vois, le truc sérieux et tout, machin.
Ouais, c'est clair, ouais, le
Et
truc
le
de ouf.
gars, dans la merde, parce qu'il fallait des autors, les machins, les trucs, tout ça. Et je dis, bon, mais ça va, c'est un pote à moi qui me l'a renvoyé. Je dis, ben ça va, je viens, j'habite à côté, c'est la maison, hein, le circuit Paul Ricard, je passe les détails après. Et de là, en fait, on sympathise. Il est arrivé qu'il a fallu complètement désosser sa machine pour la modifier, pour le live, etc. Et donc, quand tu arrives avec ton expérience de FPViste d'il y a quasi 8 ans, je crois, à cette époque-là, le mec, il hallucine. Le mec, il prend tout, je découpe, je sors la Dremel. Il me fait rassouder le machin, le truc, il n'a pas compris. Il me dit, mais t'as tout ça dans le sac? Je dis, gros, c'est comme Harry Potter, moi, il y a tout dedans. Et de là, en gros, il me dit, putain, mec, tu m'as sauvé la vie, merci et tout, je te revaudrais ça. Et un mois après, il
Bah oui.
m'appelle, il me dit, bon, ben vas-y, on part à San Francisco, on va shooter le CLGP, les voiliers les plus rapides du monde, tu vois.
Ah, c'est comme ça que tu t'es retrouvé là-dessus, parce que le tournage est quand même
Mais
incroyable.
c'était même plus incroyable. Je pars à San Francisco, le lendemain, je shoote des bateaux. Je shoote ça 3 jours. Le dernier jour, je prends le taxi direct en sortant du bateau. Le taxi, matin, il m'amène à l'aéroport, je me casse. C'est le truc, la presta la plus rapide de l'histoire. Ah non, c'était un truc de fou.
Ça doit être lunaire, ça. Ça doit être lunaire comme
Ouais,
expérience.
en fait, je te retrouve des fois sur des projets. Mais quand j'ai fait Madagascar, c'est pareil. Tu vois, je travaillais avant dans une boîte qui faisait des huiles essentielles, matières premières aromatiques, parfumerie, tout ça. J'étais
Ouais.
business développeur pour eux. Et en fait,
Ok.
il m'avait fait un CDD de 1 an, ce qui me faisait un peu chier. Et CDI à la fin. Et en fait, ça commence à partir un peu en vrille, parce que le groupe auquel appartient la boîte, c'était en restructuration, etc. C'était très compliqué. Et il change de directeur général de la boîte. C'était en gros le mec de l'informatique qui passe DG. Ok, d'accord. Et le mec, un con, il m'a saoulé. Et en gros, ouais, gna, il commence à faire un peu le fou. Donc moi, j'ai calmé 2 fois en lui disant, déjà, de 1, je suis pas ton pote. De 2, tu me parles pas comme ça parce que ça va mal se passer. Et de 3, ben, quand tu seras calmé, tu reviendras me voir. Et là, je me suis barré. Et du coup, ça l'a saoulé. 2 jours après, il vient me voir, oui, et tout, nanani, nanana, on peut pas te faire le CDI, truc. Et là, je l'ai regardé clairement, je dis, tu sais quoi, mais tant mieux. Et royalement, je m'en bats les couilles. Voilà. Et je me retrouve, ben, tu sais, chômage,
Donc t'as
merci.
fait ton fuck à ce monde-là et t'es parti faire ta boîte de drone,
Ben,
quoi.
surtout, tu te dis, putain, ça fait 1 an que je me fais chier pour eux dans ce truc-là, ça commençait bien à me plaire et tout. Parce que je connaissais déjà le milieu de ce milieu-là, j'avais déjà travaillé. Et je me dis, putain, faut tout recommencer. Tu sais, d'un côté, comment dire, le syndrome de l'échec, tu vois, de te dire merde. Et en fait, je crois 2 jours après, on m'appelle, ouais, tu fais de la vidéo, etc. Nanana, un client à moi de la boîte, qui me dit, ouais, je sais que tu fais de la vidéo, machin. On a une équipe là, on est un peu embêté, qui peut pas aller faire un tournage pour nous. Est-ce que ben, tu peux faire ça? Parce qu'il nous faut du drone et de la caméra. Et moi, comme j'avais pas de matos caméra, j'appelle un pote, je dis, ouais, t'es chaud et tout, nanana, on a un tournage. Il me dit, ouais, vas-y et tout, c'est quand? Je dis, ben, on part à Madagascar dans une semaine.
Ah, c'était direct ce truc à Madagascar. En plus, t'as eu les couilles quand même de dire oui, quoi.
La première presta, tout le process de la vanille, de la gousse sur le vanillé, jusqu'à la mise en
Ouais.
sachet, quoi. C'est-à-dire, tout le truc à shooter, au nord-est de Madagascar, à découvrir des endroits, fabuleux avec des gens exceptionnels. Et de là, tu vois, quand tu passes de ton bureau de merde avec ta Clio de fonction, là, à te faire chier pour un con,
Ah,
à
c'est
aller
sûr,
là-bas,
ouais.
être accueilli comme quelqu'un de la famille, alors que les gens ne te connaissent pas, Et découvrir tout ça, j'ai dit, je veux bosser dans la vidéo, tu vois. Et c'est là que j'ai poussé pour rentrer un petit peu dans ce game-là. Après, il fallait, si tu veux, soit tu restes un peu dans le milieu qui te convient, soit tu cherches à dériver vers d'autres choses. Et le fait de dériver vers d'autres choses, c'est quand tu rencontres des gens et qu'ils te demandent, oh, tu fais ça, c'est super, est-ce que tu peux faire ça aussi? Et puis, tu te retrouves à acheter une caméra, à te former sur d'autres supports, sur d'autres choses, tu rencontres des gens. Et moi, j'aime pas bosser tout seul. Je trouve que c'est beaucoup plus, pas non seulement pratique, mais ça fait beaucoup plus sérieux aussi de bosser en équipe. Et quand tu bosses avec des gens justement qui sont bons chacun dans leur domaine, tu vas faire un projet qui va être exceptionnel. Plutôt que d'arriver tout seul à vouloir tout gérer, et tu peux pas être bon partout, c'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, on travaille à plusieurs sur des projets. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est vrai que le confinement m'a fait beaucoup réfléchir, de dire bon, qu'est-ce que je fais? Heureusement, j'avais à ce moment-là Pôle emploi, merci du coup à la fin de contrat qui m'a permis de tenir là-dessus. Et puis ouais, par contre, le 2020, dès qu'on a été déconfiné, j'ai pas arrêté, quoi. De mai jusqu'à novembre, ça s'est pas arrêté. À coup de ouais, j'ai besoin de quelqu'un la semaine prochaine, nanani, nanana, à Cannes sur les bateaux, au quartier nord, machin, truc à droite à gauche. Ça a été
Mais
un
c'est trop
peu le
bien.
résumé du début
En même temps,
de
t'avais un
début
bon
de carrière.
background pour t'aider aussi, quoi. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est le... Non, le nom de ta boîte, c'est Mistral Drone, c'est ça?
Voilà, ma boîte s'appelle Mistral Drone. Le titre Mistral FPV, je le garde parce que c'était le délire
Ton nom de
de
scène?
David Aspen, mon nom de scène.
Ton nom de scène, non, ça fait... Ok, d'accord.
Et c'est pour ça que des fois, tu vois des génériques de télé, de série ou quoi, où il n'y a pas marqué Aspen, il y a marqué un autre nom à côté.
Ok.
Et donc ouais, depuis 2020, si tu veux, je vide ça à temps plein. Avant, c'est micro-entreprise classique, hein, tu factures tes prestats tranquille. Et puis là, depuis fin d'année dernière, je suis passé en société parce qu'on me demande de faire des prods. On a réalisé la campagne complète printemps-été Eden Park l'année dernière. Là, c'était un gros projet, c'était compliqué. Et puis aujourd'hui, je bosse quasi exclusivement avec mon ami qui s'appelle Simon, que j'ai rencontré par le plus grand des hasards. Tu vois, c'était bon, on n'a pas du tout le même âge, il est beaucoup plus jeune, il a 26 ans, moi j'en ai 40. Et en fait, pareil, c'est un gars qui me contacte, le coin-coin du FPV, je vendais une PCB de GoPro Hero 6 parce que j'avais éclaté la lentille devant le parvis de Notre-Dame-de-la-Garde, tu vois.
Ok, d'accord.
À chaque fois, il y a un rapport entre une histoire et l'autre. Et ouais, en fait, j'ai eu une couille avec le cinéma, puis il y avait du vent, etc. Il est tombé par terre, la lentille s'est éclatée. Du coup, j'ai dit, bon, je rends la PCB, je m'en servirai pas. Et lui, il avait grillé sa PCB, il avait la lentille. Et il vient me voir, il me rejoint à la gare de La Ciotat, tu vois, il n'avait même pas de voiture, peu cher. Et on discute, mais je sais pas, 2 heures. Mais truc improbable, tu vois, de tout, de rien, nan, nan, nan. Écoute, si t'as besoin, je viens de faire des backstage, des machins et tout. Écoute, pourquoi pas? Tu sais, il y en a plein qui me proposaient de venir sur des trucs, mais après, quand tu connais pas les gens, c'est compliqué. Et puis j'allais souvent sur les trucs avec Chris, quoi. Et là, je me retrouve sur ce que je te disais, un joueur du Paris Saint-Germain qui me contacte pour faire des vidéos de lui à Saint-Tropez et tout, truc improbable.
C'est lunaire
Et là,
comme
je dis, ouais,
demande,
tu vois,
je
le petit
trouve.
jeune qui est venu me voir en train, là, je pense que si je l'amène à Saint-Tropez, il va kiffer, tu vois. Je l'appelle, je dis, ouais, tu veux venir? Et tout, eh, vas-y, je suis chaud et tout, il vient. Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est qu'il était chez sa mère à Sisteron. Donc le matin, il part hyper tôt pour être chez moi vers 7 du mat, depuis Sisteron, tu vois. Et il vient avec sa vieille 206 et tout, machin, ultra motivé, chaud bouillant, on monte dans ma caisse, on trace sur Saint-Tropez. Le yacht avait du retard, parce qu'il savait pas qu'on était sur un bateau, mais moi, on m'appelle, je le savais, il me dit, ouais, on a du retard, nanana. Je dis, écoute, on va sur le port, on va manger. Donc je l'amène à un resto, on se fait une petite crêpe sur le port de Saint-Tropez, Calais et tout. Et après, je dis, bon, c'est bon, ils vont arriver. Et on va là où t'as toutes les boîtes, tu sais, Saint-Tropez, sur la plage de Pamplonne. Et donc on gare la bagnole, et puis on va dans un des genres de restos qui a le ponton, pour justement que les bateaux viennent te chercher. Là, il me dit, bon, on va où? Je dis, ah, t'inquiète. Et de là, en fait, on se retrouve sur le ponton, un Zodiac qui vient nous chercher. Il dit, on part en bateau. Il dit, ouais, mais on va filmer sur le bateau tout l'après-midi. Ah ouais, d'accord. Donc, on monte sur le Zodiac, des Zodiacs de luxe, tu vois, moteur inboard 300 chevaux turbo, le mec, il me faisait des accels et tout. Putain, ça tue. Lui, il était là, les paillettes dans les yeux, il hallucinait ce qui lui arrivait. Et on arrive à côté d'un yacht de 31 mètres, 3 niveaux, un Fittipaldi, je sais plus quoi, magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Tu vois, il me l'a sorti 2000 fois, du coup je la ressors. Je pars de chez moi, dans ma vieille 206, je me retrouve sur un yacht à je sais pas combien de millions d'euros, avec un joueur du PSG qui m'aide à monter, qui me serre la main, ça va et tout, tu vois bien? C'est quoi ce monde? Avec le chef qui nous a fait manger l'après-midi, les desserts, les machins, les trucs. C'était génial, c'était jet ski, toutes les conneries qu'on pouvait faire. Et de là, en fait, on est devenus amis, et puis ma compagne sur Sur la quasi-intégralité de mes projets, et puis je le fais taffer
Ouais,
au
ce que
max
je
parce
vois pas mal,
que
ouais.
lui en caméra, cadrage, etc., il est très très fort, il est exceptionnel dans ce qu'il fait.
Oui, parce que du coup, toi, tu as commencé tous ces projets-là, mais au final, tu n'avais pas vraiment de connaissance de la vidéo avant de commencer tout ça. Comment est-ce que ça s'est fait? Tu as réussi
Ben à la base, je suis
à t'y
commercial,
faire?
donc si tu veux, le côté enfin, commercial, manager, etc. Donc toute la partie management, organisation, production de quelque chose me plaît. C'est un truc qui m'a toujours attiré. Et puis la relation client et la créativité. Moi, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait pas mal de vidéos en drone, mais c'était des vidéos pour le fun. Si tu veux. Moi, j'aimais bien retransmettre en image ce que je vivais avec le FPV, mais c'était pas du tout professionnel. Donc en fait, il a fallu que j'apprenne des choses. Donc Simon, en l'occurrence, m'a beaucoup appris de choses par rapport au cadrage, par rapport à plein de choses. Et quand tu arrives sur des prestations où le FPV, c'est tout nouveau, les gars qui sont un peu sérieux, un peu motivés, s'y intéressent, ils te donnent des conseils, tiens, est-ce que tu pourrais cadrer plutôt comme ci, comme ça, faire ce genre de move, tac. Et à force, si t'es pas bête, t'écoutes ce qu'on te dit, tu recherches après des trucs, tu vas regarder les films différemment, tu vas analyser comment c'est filmé, le cadrage, la règle des tiers, tous ces trucs-là. Et puis après, c'est pas compliqué, sur Internet, t'as un peu tout ce que tu veux. Hein.
Oui, ça par contre, pour la post-prod, il y a largement ce qu'il faut.
Mais la meilleure expérience, j'ai quasiment tout appris. Tu sais, je suis pas trop de la génération, je mets un tuto, j'apprends. Je suis de la génération, il faut que je sois sur le concret, que quelqu'un m'explique, qu'on le vive et qu'on le teste. Tu vois, faut faire tes propres conneries pour les assimiler et ne plus les refaire. Donc ouais, c'est sur tous mes tournages en fait que j'ai appris tout ça. Et aujourd'hui, sur la prod, je m'éclate. Et là, j'ai réalisé ma première vidéo, enfin ma première pub. J'ai réalisé une pub il y a un mois. Elle va sortir là.
Trop bien, ok.
Ça, c'était un autre délire quand je me retrouve par rapport à un client régulier qui me place sur la vidéo d'un partenaire à lui et je me retrouve à réaliser carrément la vidéo, à voir toute la partie. Allez, on est sur le brainstorm avec les gros de la boîte qui te disent bon, qu'est-ce que vous avez comme idée? Nous, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. Vos besoins, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va sortir? Et de là, on a fait un truc qui me plaît beaucoup déjà. Et même s'ils m'ont fait enlever le dernier plan parce que voilà. Mais moi, je posterai la vidéo avec le plan de la fin parce qu'elle
Oui, tu te fais un petit director Scott, puis voilà.
est. Carrément, carrément. Et puis, ouais, si tu veux, quand tu vois que j'étais dans mon bureau, entre guillemets, à me faire chier il y a quelques années, et aujourd'hui, je voyage régulièrement, je fais des trucs que je pensais improbables à une époque, voilà, c'est.
Bah, j'ai envie de dire, si déjà t'as le téléphone qui sonne tout le temps, tu t'enlèves une des grosses angoisses que tu peux avoir quand t'es freelance.
Ça te la met quand même l'angoisse parce que si tu veux, c'est surtout par rapport au Covid. Moi, si tu veux, j'ai connu ce milieu-là après le Covid. Donc après le Covid, c'était un peu n'importe quoi. Tout le monde courait dans tous les sens. Ils ont perdu 3 mois de tournage. Faut rattraper. Faut faire ci, faut faire ça. Surtout dans la musique. Dans la musique, c'était limite les clips qui se décidaient du jour au lendemain. Donc ça a été toujours. J'ai eu du taf, comme je te disais, non-stop,
Ouais.
mais sans avoir l'agenda rempli 2 semaines plus tard.
Ouais, bah c'est toujours comme ça de toute façon, clairement. Mais d'ailleurs, en drone, c'est pas pratique à cause des autorisations, c'est toujours un peu relou ça,
Et
mais.
ouais. Après, merci à la préfecture des Bouches-du-Rhône du 06 et du 84 qui sont adorables. Maintenant, j'ai le numéro de portable de la plupart des
Oui,
internes
bah ça fait
dedans.
toujours comme ça de toute façon.
Ah ben au début, tu les appelles, t'es un peu emmerdé. Je fais excusez-moi, je vous préviens au dernier moment. Je dis, mais voilà, vous connaissez la conjoncture actuelle, c'est à l'arrache et je fais ça m'embête de refuser une prestation quoi, tu vois.
Ouais.
Parce que ouais, il faut quand même rester lucide et pas faire de conneries. Tu fais une activité pour laquelle tu as besoin d'avoir un brevet. Et ce brevet, ils peuvent te le faire te sauter si tu fais n'importe quoi. Donc l'objectif,
Ah
c'est quand
bah
même
clairement,
de pas
ouais.
faire de conneries. Parce qu'il faut être honnête. Hein. Les trois quarts, ils ont acheté un DJI FPV, ils se sentent plus pissés, ils vont faire des plans de merde en disant,
Bah
ouais,
bien
j'ai fait la
sûr.
tour Eiffel, mais tu voles comme une merde. C'est déjà. Et tu mets déjà en danger parce que tu connais pas ta machine et tu
Bah
sais qu'on peut te
clairement.
couper la machine en vol aussi. Donc bon.
Bah, il faut toujours partir du principe qu'à n'importe quel moment, ton drone peut tomber du ciel sans que tu l'expliques, quoi.
C'est ce que je répète depuis 10 ans. Parce que
Ouais,
ça m'est arrivé plein de fois.
bah ouais.
Pas récemment, parce qu'aujourd'hui, tu apprends le matériel, tu connais le matériel fiable
Oui,
et
t'as
tu te mets pas en danger, tu configures tes machines pour éviter ça. Mais à l'époque, ouais, combien de fois? Mais comme mon premier vol FPV, où j'ai même pas eu le temps de mettre mon masque fait maison en carton avec un masque de ski, j'ai même pas eu le temps de le mettre sur les yeux, le drone est tombé, il s'est cassé. Et en fait, on a eu tellement de trucs à l'époque improbables où le drone il tombe par terre sans raison, t'as une désynchronisation, t'as une cape qui
Non,
marche pas.
Une question où on parle un peu plus matos. Toi, aujourd'hui, tu tournes avec quoi en général? Est-ce que tu tournes beaucoup en GoPro? T'as un peu des ciné-lifters quand même? Comment tu te situes là-dessus?
Ciné-lifter, je suis pas trop dans le truc parce que bah déjà en France, si tu veux, par rapport à la législation, c'est compliqué parce que tu dépasses le poids autorisé en scénario S3 et on est souvent en scénario S3. Donc au niveau ciné-lifter, j'ai un Sicario, j'ai un SIC, tu vois, la base,
Ouais.
mais je vole pas tout le temps avec. Je préfère voler en pigeon avec Blackman Naked. Donc
Oui,
j'ai trois
oui.
pigeons de 7 pouces à 8 pouces
Ok.
qui volent du coup avec de la Black Magic Naked.
Et alors, t'en penses quoi? J'ai Airflex qui me disait, lui, il est pas hyper fan de mettre naked des caméras. Mais moi, je trouve que c'est vrai que pour la législation, pour éviter les parachutes, c'est quand même pas mal.
Ben ouais, carrément. Ben moi avec cela, je vole où je veux. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Après, naked des caméras, ça fait chier.
Tu l'as fait toi-même, du coup?
J'ai naked trois caméras, j'ai baisé deux écrans.
Putain.
Voilà. Non, après, tout dépend du projet, tout dépend de tout ça. Donc, on est équipé, si tu veux. J'ai pareil, j'ai un ami qui a la Komodo. Si je veux la faire voler, on prend la Komodo. Mais la Komodo, pour la post-prod et tout, c'est une galère. Donc, si c'est des choses qu'on doit traiter nous, on va pas proposer ça. Pour des prods qu'on va faire nous, on va faire de la GoPro essentiellement parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre, ou de la Blackmagic si vraiment il y a une valeur ajoutée intéressante.
Ok.
Les chefs-op, ben, c'est toujours pareil. La dernière fois, on a bossé, on a fait une pub pour Lancôme. Ben, c'était de la Blackman Naked. Parce qu'ils voulaient ce type d'image-là. Et du Mavic 3 Ciné, parce que le Mavic 3 Ciné, la nuit ou quand il y a très peu de luminosité, ça marche très bien au niveau du capteur. Donc on est parti là-dessus. Plutôt que sur de l'Inspire 2 avec de la X7,
Oui,
parce
parce
que
que
le chef
j'allais te
op.
dire, t'as un Inspire pourtant, mais oui, ça. Il n'y a pas assez de sensibilité par rapport au Mavic 3 même.
Écoute, moi j'ai jamais filmé avec l'Inspire le soir ou la nuit,
Ouais.
donc c'est vrai que je n'ai pas cette expérience, mais par contre les chefs op avec qui j'ai bossé dernièrement m'ont dit non, la X7 faible luminosité, tu oublies. Donc soit en gros c'est lifter avec Ronin et une Komodo dessus, ce qui est une galère, soit l'Inspire
Ouais.
3 dans quelques semaines.
Et tu vas y passer?
Ouais, comme tous. Mais en fait, l'Inspire 3 va passer entre mes mains, je pense, pour les prestations où tu as besoin d'un Inspire 3. Mais mes Inspire 2 vont se retrouver naked sur des drones FPV pour des trucs un peu plus ouf. J'ai deux amis qui avaient craché des Inspire, qui les gardaient pour des pièces et au final, ils me les ont donnés. Donc là, on est en train de bosser dessus. Et après,
Ok.
les deux Inspire que j'ai là, qui se revendront pas, je m'en servirai que pour ça. Et l'Inspire 3, je pense que ouais, il va servir vraiment pour les prestas, entre guillemets, plus carrés, ou les prestas où tu as besoin de parachute, etc. Parce que bien sûr, on va l'équiper full avec para et avec tous les dispositifs
Bye.
nécessaires à l'exploitation professionnelle. Parce
Bah
qu'on
cool.
commence à tourner de plus en plus de pubs, justement. Et c'est ça qui est cool, si tu veux. On a évolué, au début, c'était beaucoup de rap, enfin beaucoup de clips musicaux. Il n'y a pas eu que du rap, hein. Il y a eu d'autres choses. On a bossé pour Kenji, pour Benjamin Biolay, etc. Après, j'ai dérivé pas mal sur l'automobile parce que j'adore l'automobile et parce que le circuit est à côté.
Ouais.
Et donc, au fur et à mesure, d'une presta en enchaînant une autre, j'ai filmé des trucs sympathiques. La dernière grosse presta en date, c'était pour Peugeot avec la 9X8 des 24 heures du Mans. On a fait des images qui étaient assez folles là aussi. Et pareil, ça c'était du Mavic 3 Ciné et de la Blackman Naked.
Ok. Mais alors du coup, ouais, parce que j'avais bien envie qu'on aille un peu dans ces histoires de chasing de voitures de course, parce qu'au final... Ça se passe comment? Tu fais les images en FPV quand il n'y a pas encore le public ou pendant les races? Ça se passe comment
Ça
en
dépend
général?
des prestats en fait, parce que
Ouais.
la plus folle qu'on a fait, c'était les 12 heures du Castellet, course d'endurance durant lesquelles on a fait du live. Donc là, on réutilisait la
Ouais,
sortie
donc.
Smart
Ouais.
Controller pour envoyer ça en live sur la prod. Donc,
Et donc c'était du FPV en
ouais,
live.
FPV en live, et la tribune qui était à
Putain.
côté de nous, il n'y avait pas de public sur cette tribune-là. En fait, le Castellet, au niveau des tribunes, c'est assez particulier, parce que tu n'as pas accès à tout le circuit en dehors du Grand Prix de Formule 1. Et
Ok.
là, d'ailleurs, c'est vu qu'il n'y a plus le Grand Prix de Formule 1, ils ont pété toutes les tribunes. Quasiment. Donc, il reste plus beaucoup d'endroits où t'installer, ce qui fait que nous, on a la possibilité de voler plus ou moins où on veut. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, ouais,
Bah ouais,
après, c'est toujours
carrément.
pareil. Sur un FPV, tu voles à moins de 5 mètres, à moins de 10 mètres du sol. Potentiellement, le public est à plus de, je sais plus combien de mètres, je crois. Parce que sur certains virages, là où on se met, le public est à une cinquantaine de mètres minimum. Donc, niveau sécurité, on est dans les clous. Et après, ouais, en live, c'est un autre délire. Sinon, souvent, c'est du tournage, hein, ou alors de l'after movie sur des track days, des trucs comme ça.
Oui.
Donc c'est vrai que là,
C'est pas pendant le vrai event, souvent c'est des images en plus qui viennent dynamiser le montage, quoi.
pendant les courses, on a eu les autorisations, mais pour les 12 heures du Castellet, et encore c'était très compliqué. Les marshals, enfin pas les marshals, mais la direction de course a été très dure avec nous, on va dire. Faut pas survoler la piste, faut pas faire ci, faut pas faire ça, là, 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 là. Alors que les virages, justement, enfin, avec notre expérience aujourd'hui, on sait les endroits où on peut aller coller le cul d'une voiture, que même si le drone coupe, dans tous les cas, avec l'inertie, il sortira du virage.
Oui,
Comme
clairement, ouais.
j'ai envie de te dire, un morceau de carbone d'une bagnole, le mec il pète un déflecteur ou quoi que ce soit sur un aileron ou sur un spoiler, le morceau va rester par terre et avec la vitesse en fait il va se barrer. Enfin il va taper par terre et il va se barrer. Donc on sait où se placer, si tu veux. Déjà faut pas faire ça en ligne droite, faut pas être con. Et puis t'as pas envie de bousiller la course d'un gars. Le gars il est là, il se fait une course d'endurance
Bah
de
non.
12 heures, si ton drone il tombe sur son pare-brise, moyen. Donc t'as toujours le spotter qui te dit vas-y tu peux suivre telle voiture parce qu'il y a personne derrière. Et là, tu vas t'amuser. Quand tu as trois voitures qui se suivent ou deux voitures qui se suivent, tu suis la dernière, tu ne suis pas la première.
Bah oui, évidemment. C'est des véhicules qui vont à quelle vitesse déjà?
La Peugeot, elle a dépassé 330, je crois.
Ouais, c'est ça, donc t'as pas des drones forcément taillés pour les suivre, ça va jusqu'à combien toi ce que
On ne
t'as?
suit pas dans la ligne droite,
Ouais.
dans la ligne droite du Mistral, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. Tu peux pas. Tu suis le début de la ligne droite et tu montes. Tu sais, ça fait un beau plan de fin, si tu veux, avec la voiture qui part vers l'horizon. C'est assez joli.
Ouais, c'est ça, c'est cool, ouais, carrément.
Ça, c'est les plans qui vont faire le taf. Après, tout dépend de la vidéo que t'attends. Si tu fais que des vidéos avec toi dans le cul des voitures, c'est redondant à mort. T'as beau suivre les meilleures voitures
Ah
du monde, ça
bah
sert à rien. Donc, il faut avoir des images de derrière, des trucs où tu les croises, tout type d'images que tu peux avoir envie de faire
c'est pour ça que
avec
tu
des bagnoles.
utilises d'ailleurs toujours un Mavic ou un Inspire en plus de ton FPV en général, c'est ça?
Toujours, toujours. Parce que ouais, c'est pas les mêmes types d'images, c'est pas la même chose. Et puis, faut pas être ouais, je fais du FPV, je fais du FPV. Le FPV, c'est un outil. Le Mavic, c'est un outil. La Camosol, c'est un outil. Les GoPro embarqués aussi. Et c'est vrai que quand on a fait un tournage pour Once Upon a Car. D'ailleurs, vous devez aller vous abonner à la chaîne Once Upon a Car sur YouTube. C'est des passionnés d'automobile qui font des tests de voitures assez atypiques, mais ils testent des voitures de malades. Et nous, on a fait des vidéos avec eux, notamment avec la Ferrari 250 GTO, la plus chère du monde, et
Ouais.
une Ferrari GTSWB qui a gagné le Tour de Corse en 63. Donc, on avait ces deux voitures de légende, une de 62 et l'autre de 63. Donc, c'est des mémés de 60 balais, hein, qui ont été restaurés, qui sont dans un état magnifique, dont la voiture la plus chère du monde. Et là, on s'est dit, waouh, c'est ouf! Et ben ça a été à base de GoPro embarqués à l'intérieur avec des cadres super stylés, des images à FPV, il n'y en a pas beaucoup parce que le vent ne le permettait pas, et puis des endroits, tu sais, en automne avec les branches mortes, etc. T'évites de faire trop
On
le
en
con
parle
avec des
pas.
voitures à 70 millions. Voilà. J'ai eu la chance de la démarrer, et ça fait partie aussi des meilleurs souvenirs que j'ai. En fait, on parlait avec le proprio, t'es devant la voiture, j'étais en train d'halluciner, c'est-à-dire devant moi, j'ai un machin qui... J'ai la voiture la plus chère du monde devant moi, quoi, tu vois. Et là, je le regarde, je fais, je peux la démarrer. Il me dit, ouais, vas-y, la clé est dessus. Fan d'automobile, on te dit de tourner la clé de la première
Mais on
250
sent bien que tu
GTO
es
qui est
fan, ouais,
sortie de
carrément.
l'usine, tu vois. Tu dis là, c'est Enzo qui l'a sorti de l'usine, c'est pas n'importe qui. Et là, tu démarres, le V12, il commence à crier, tu dis waouh, c'est un autre débat. Et après, ben, je suis monté dedans avec Benoît Trélu, triple vainqueur aux 24 heures du Mans, sur des petites routes de village en train de rouler à balle en pleine nuit. C'était juste, qu'est-ce que je fais là? J'étais dans la statue de Notre-Dame-de-la-Garde, après je suis dans une voiture de 24 heures du Mans, ou alors dans un Zodiac en train de suivre les voiliers les plus rapides du monde, en train de piloter un FPV, la radio ici en train de sauter comme ça. Fabuleux, j'adore ma vie. Voilà, globalement je peux
C'est
dire que
trop
ça,
cool. En
j'adore
tout
ma
cas,
life.
on voit que t'as bien fait de rentrer dans cette aventure-là parce
Oh
que
putain,
putain,
oui.
t'en parles avec le sourire.
Il faut. Déjà, c'est un métier que tu peux pas faire si t'es pas passionné.
Et il n'y a jamais des moments où. Bah, enfin, remarque comme tout le monde, tu dois avoir des moments de stress en tant que pilote ou c'est de moins en moins quand même?
Non, toujours avant, en fait, parce que tu gamberges, t'as pas envie de tomber dans une galère, tu essaies de penser à tout, dire est-ce que j'ai rien oublié, comment on va régler ci, comment on va régler ça.
Ouais.
Et comme je suis quelqu'un de très pointilleux et perfectionniste, ça m'a coûté quelques nuits blanches, ouais. Ce qui, au final, porte préjudice parce que t'es pas à 100% de tes capacités sur la presta, et donc bon.
Clairement, mais ça montre que, comment dire, tu tiens à bien faire, et ça, c'est important, je
Hors de
pense.
question que je fasse un truc à l'arrache, quoi. Je préfère pas le faire, clairement. Je préfère dire non, ça
Ben
m'intéresse pas, plutôt que dire je viens et je vais me faire chier. Donc,
non.
c'est pas le but. Le but, c'est de faire les images que le client veut, qu'il soit content et que moi, je sois content aussi de ce que je fais. Parce que le jour où je serai juste blasé d'aller bosser, que je vais décoller mon drone, ouais, j'ai fait des images, je rentre chez moi, bah, c'est le moment où il faudra que j'arrête. Parce que c'est si tu as plus cette passion, cette petite flamme qui va te donner envie d'aller chercher le plan que personne n'a fait ou d'aller faire justement cette dinguerie pour que les gens ils disent waouh, ouais, c'était super, ben, c'est plus drôle quoi.
Quand t'es pro, est-ce que tu arrives à prendre du plaisir à voler pour toi, pour faire de la race ou faire des petites images pour toi? Est-ce que tu arrives encore à kiffer ou t'as besoin quand même de cette vibe que t'as quand c'est une presta, que t'as un peu de pression, qu'il y a une obligation de résultat, qu'il y a tout ça quoi?
Alors, obligation de résultat, je la ressens plus. Ben comme en début de semaine, lundi, mardi, on bossait sur une série pour Disney+, où là, tu as une obligation de résultat. Les mecs veulent des trucs très carrés. C'est un Inspire 2 X7. Donc, tu apportes quelque chose de. Déjà, en plus, les premières images qu'on a fait, on les a fait tout seul. Il n'y avait personne avec nous. Écoute, on a testé trois focales, on a shooté au 24, au 35, au 50, on a fait plein de plans différents. Au bout d'une demi-heure, on dit bon, mais j'ai plus trop d'idées. On revient, le réal est parti après les trucs, donc il a fallu qu'on copie les rushs, machin, pour qu'il les voie. Et les mecs nous disent bon, écoute, si jamais ça convient pas, on les refera demain matin. Demain matin, on shoot sur une villa, mais si les plans sont pas bons, faudra qu'après vous retourniez là-bas. On dit bon, bah, écoute, si on peut avoir ne serait-ce que des indications du réal, parce que j'avais compris qu'il était compliqué, qu'il savait ce qu'il voulait précisément, nanana. Donc là, tu dis putain, ça me ferait chier qu'il aime pas, tu vois, parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Et on arrive donc le deuxième jour sur le set à 7 h du mat en plus. Le réal vient nous voir, ouais les gars, salut, alors, super les images d'hier, parfait, j'adore, bravo les mecs.
Ah, bah ça fait plaisir,
Même
putain.
l'assistant réal qui nous dit, oh les gars, franchement, chapeau, parce que il est
C'est
rarement,
qui le
très rarement comme
patron?
ça, tu vois. Donc là, tu dis, voilà, tu vois, t'es pas n'importe qui, quoi. C'est qui le patron? Et non, mais ça me l'a raconté ou quoi? C'est qu'après, ouais, quand tu as. En fait, quand j'arrive sur une prestation, j'aime bien ben déjà bosser avec Simon parce que très bon en cadrage au sol, etc. Et en l'air parce qu'il vole aussi, hein, il est très fort. Mais quand je vole ou qui fait mon assistant cam ou mon cadreur, moi j'ai mon regard, lui il a le sien. Et j'aime bien qu'on me donne d'autres idées parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, t'as tendance à répéter plus ou moins les mêmes gestes automatiques, et tu vas faire tes trucs. Tu vas pas forcément penser tout le temps à changer de truc. Ah tiens, si on fait un contre-champ, si, un ça. Donc le fait d'être à deux, vont te donner beaucoup plus. Ça va te donner beaucoup plus de possibilités et d'idées. Et des fois, tu fais ton truc, tu te fais chier parce que tu dis putain, j'arrive pas à sortir un truc où moi je me dis waouh, ça tue. Et il va dire ah tiens, essaie de passer par là-bas, nanana. Et de là, ah ouais, putain là ouais, ça débloque parce qu'au final,
Ouais.
le fait de travailler à deux, ben ça change le résultat.
Intelligence collective, bien
C'est
entendu.
exactement ça. Ou alors quand tu es avec un réalisateur, tu vois, j'ai fait ben, le dernier gros clip que j'ai fait au Stade Vélodrome, c'était pour Soprano et Zamdane. Et donc je bosse avec Chris Macari, qui est un des réalisateurs les plus prolifiques du rap français. Il a fait tous les clips de Booba, notamment depuis le début. Et c'est un des mecs envers qui j'ai le plus de respect dans ce milieu-là, tu vois. Et quand j'ai vu que j'avais bossé avec lui, j'étais là, je me suis mis une pression. J'ai dit, putain, je vais bosser avec Chris Macari, il faut que je fasse des plans qui tuent, tu vois. Et on arrive au stade Vélodrome, donc ils font leurs images avec la caméra au sol, sur le toit du stade, et après on devait nous attaquer en drone. Il vient me voir, donc on lui a préparé le retour, le ci, le ça. Il me dit, écoute, j'ai regardé ton travail, tu connais les lieux, vas-y, kiffe, ta carte blanche. Donc tu vois, quand tu bosses avec des gens comme ça, déjà de suite, tu dis, bon allez, tu m'as dit kiffe, on va kiffer, mon gars. Et il était super content. Je lui ai dit, écoute, si tu as des angles ou des axes ou quoi que tu vois, que j'ai pas forcément fait attention, n'hésite pas, tu me dis. Donc il m'a dit deux, trois trucs pendant que je volais, mais on a passé un super moment, quoi. Le mec super cool, tu vois, c'est un des mecs que tu respectes le plus, il te dit, vas-y, ta carte blanche, kiffe. Parce que lui, il a compris que quand tu kiffes, tu es créatif. Tu vois, tu fais quelque chose qui te plaît, tu es
Clairement.
créatif, et quand tu as de la liberté aussi. Alors que tu as d'autres réalisateurs qui sont bidons. Mais bidon, où les mecs ils vont te faire chier, ouais, filme comme ci, comme ça, nanani, nan. Non, mais là je peux pas, c'est nul, parce qu'il y a ça derrière, parce qu'il y a ça. Déjà, le mec, tu lui dis, je le vois dans mes yeux que c'est de la merde. Mais les gens ils comprennent pas, ils veulent faire genre, t'as vu, c'est moi le patron, mais t'es nul. Donc tu fais ce qu'il y a à faire, tu prends les sous, tu vois, mais me crédite pas, s'il te plaît, merci, au revoir. Et puis souvent, les images où lui il a dit qu'il fallait faire ça, il les utilise pas, il utilise celles que toi t'as fait à côté. Mais c'est compliqué parce que tu bosses avec des gens différents et. Enfin, compliqué non, parce que
En
c'est.
même temps, ça enrichit l'expérience au final. Et ça fait que du coup, retourner tout seul voler, c'est plus compliqué, je pense.
Mais alors, quand j'ai volé tout seul, ben voilà, c'était ta question à la base. Le fait, est-ce que je kiffe en volant tout seul? Ça dépend ce que je fais, en vrai, parce que c'est rare que je vole pour le fun, à part quand je vais tester des machines, parce que ben, je suis papa depuis 2 ans, et parce que, enfin, depuis bientôt 2 ans, et parce que je kiffe passer du temps avec ma fille aussi. Oui. Plutôt que d'aller me tuer, ouais, faut que je vole, faut que je vole, faut que je vole. Ça fait 10 ans que je vole, donc c'est pas parce que je rate des sessions que c'est grave. Et avant, ouais, c'est sûr, c'était un peu une drogue, quoi. J'étais tout le temps dehors, en train de voler, de faire des trucs. Et là, c'est vrai que je préfère me dire, si je sors pour kiffer, autant que ça soit style dans un gros bandeau stylé, que j'y aille entre potes à l'ancienne. Et voilà, on y va 4 ou 5, on va se faire une session comme on faisait avant. Ça va me faire kiffer. Maintenant, aller dans un champ voler, je m'en fous royal, quoi. Ou là où je vais tester les machines, je suis blasé. Pourquoi? Parce que le spot, je le connais de A à Z. Je vais envoyer la machine sur la crête en haut, je vais diver dans un trou. Ouais, super cool. Je l'ai fait 200 fois, ça me fait plus kiffer.
Ouais,
Par contre, quand tu bosses, tu vois, style au circuit Paul Ricard ou quand tu bosses sur des endroits un peu stylés, ben je kiffe parce que ben voilà, t'as cette adrénaline de suivre des voitures, qui t'apporte quelque chose. J'y suis souvent aussi pour m'entraîner au Paul Ricard, hein, parce que je connais les gars du petit circuit à côté, le Driving Center, et puis on va s'entraîner là-bas souvent. Ça nous permet, ben, nous, de perfectionner des shots, etc., pour les proposer après à des clients.
trop bien,
Et
c'est cool d'avoir
là,
ça.
tu kiffes parce que, ben, en fait, t'as un sujet, t'as de l'entertainment, t'as du divertissement devant toi
Ouais.
qui fait que ça va t'intéresser.
Bah, de toute façon, des belles images, c'est quand même beaucoup mieux quand il y a un sujet à filmer, quand même. Putain.
Ah, ben, tu vois, ce que je me disais quand je regardais mon showreel le dernier, je me dis, putain, j'ai pas d'image de paysage. Quasiment pas, tu vois, parce que.
Mmh. Oui, mais parce qu'on sait que tu peux les faire, en fait. Enfin, c'est pas un souci, quoi,
Ouais,
tu
tu vois,
vois.
par 2-3 dives de gros rochers, j'ai pas comme Drone My Life Laurent. Lui, il a des images de paysages qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que ouais, tu vas dans les îles
Mais
Féroé,
lui,
tu
il
vas.
retransmet une expérience de voyage, c'est pas le même délire, je pense,
C'est
quand même, tu
ça.
vois.
Mais je me suis dit, putain, il me manque ça. Donc il faudrait que je me remette à ça, tu vois, partir des week-ends quelque part, à grimper en montagne et faire des images
Ouais,
différentes, tu vois, un peu
attendre la bonne lumière, tout
de
ça, ouais.
medium long range, quoi. C'est ce qui
Ouais,
manque, je pense,
clairement.
à mes images. J'ai beaucoup, beaucoup de chasing, beaucoup de ciné-whoop, parce que le ciné-whoop, je me régale aussi, c'est génial comme truc.
Ouais.
Quand tu voles vraiment au plus près des trucs, tu passes dans des trous de
Ah,
souris.
c'est drôle à faire comme les tours. C'est un petit travail d'orga, je pense, pour tout coordonner, tout mettre en scène, mais une fois que c'est fait, tu dois être trop content,
On
quoi.
a bossé pour le Pasino de hier. J'avais déjà fait la Ciotat et Bandol. Et là, celui-là, on l'a vraiment, vraiment bien, bien découpé. Chaque personne avait son rôle et tout. C'était super sympa à faire. Mais c'est ça qui est cool, tu vois.
Ouais.
C'est la partie orga. Moi, tu me dis, j'ai filmé le salon Whisky Live aussi à Paris. Ouais, alors le salon est immense. Tu vois, c'était au Hall de la Villette. C'est génial. L'intérieur, il y a plein de trucs. Mais bon, une fois que t'es passé dans 3 stands, que t'as fait l'armature en haut, et que t'évites les câbles, y a personne, c'est pas rigolo. Et surtout, c'est trop grand pour avoir des gens. Donc, soit tu mets 200 figurants, soit c'est pas la peine. Et donc, c'était un peu, ouais, c'était un peu pas ennuyeux parce qu'on trouve des lignes sympas. Mais ouais, à la fin, tu dis, ouais, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose de scénarisé, de coordonné.
Tu dis que le cinéma, du coup, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on te demande de faire quoi en général quand on va appeler Mistral Drone pour une série ou pour du ciné? Ils vont te demander quoi comme type de plan?
Beaucoup de l'inspire essentiellement sur de la pub ou quoi. Encore sur de la pub, je place souvent du FPV. Donc
Ouais.
on arrive souvent à proposer des trucs un peu différents. Mais souvent, ouais, c'est de l'inspire, c'est très très
Très
smooth, très
linéaire,
propre, très
très
linéaire.
smooth, ouais.
Là, par exemple, pour la série, on a fait des découvertes de Monaco, depuis le rocher de la tête de chien tout en haut. Donc on a fait tous les axes possibles, imaginables, avec toutes les focales. Avec un contre-jour assez hallucinant et des nuages bas. Donc il y a un plan où je suis dans le nuage, je descends du nuage, on découvre Monaco
Ouais, trop bien.
au 50 mm, donc en crop ça a devenu 75, donc en gros téléobjectif quoi, c'était super sympa. Et après il y avait des plans de découverte d'une grosse 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 villa. Donc t'arrives de derrière les arbres, tu découvres la villa avec un peu un move. En fait j'essaie d'apporter des moves qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, comme Benjamin. Benjamin quand je vois son taf, ça me fait kiffer. Parce que ben lui, il a beaucoup de projets où justement on lui laisse carte blanche et où il peut s'exprimer. Et c'est là où tu vas faire des trucs qui sortent du lot. Le film qu'il a fait récemment, Loin du périph', avec Omar Sy, le 1 était cool. Le 2, le film m'a fait chier parce que, voilà quoi, c'est comédie française, too much. Mais par contre, les plans de drone de Benjamin, ils te régalent. En plus, le mec, il m'a dit, ils avaient déjà bossé avec le Real. Et le Real, il leur a dit, en gros, ben vas-y, je te laisse carte blanche. Je
Trop
kiffe ce
bien.
que vous faites, allez-y, proposez-moi des trucs, faites-moi kiffer. Et au final, le mec, il a kiffé à mort, il en a mis partout. Et ça tue
Oui,
parce que
clairement.
t'apportes quelque chose de différent. Mais contrairement à ça, Ambulance de Michael Bay, avec les images d'Alex Vanhoever en FPV dedans, ah, il y a trop d'FPV. Il y a des plans qui
Je l'ai
tuent.
pas vu, honnêtement, je l'ai pas vu,
Mais en
mais
fait,
oui, c'est
regarde-le
un peu le
parce qu'il est
retour de
ouf.
beaucoup de gens.
Déjà, action, il s'arrête pas, c'est du bon vrai Michael Bay. Mais ouais, le plan où t'as l'ambulance qui saute, enfin la voiture de flic qui saute, le lifter il passe dessous, ce plan il est dingue, surtout qu'il démarre bien avant, il passe dans une
Ouais.
fenêtre qui fait 40 cm et les hélices elles doivent passer au poil, il passe sous la bagnole qui saute, tu sais que là t'as pas droit à l'erreur, tu fais des... ça c'est de l'adrénaline pure.
Ouais.
Après t'as des images qui tuent, de transition entre un plan et l'autre et tout, c'est totalement cool, mais il y en a trop. Il y a des images, elles servent à rien, à un moment t'as le drone, il monte, il dive la banque, tu sais pas quoi faire, pourquoi
Oui.
faire ça? Il y a plein d'endroits où les images, il y en a trop, en fait. J'ai trop d'FPV, tu l'FPV. Alors que je suis pilote FPV, c'est ma passion. Mais...
Michael Bay n'est pas connu pour être minimaliste après, hein.
Je te l'accorde. Le mec, combien de fois il a fait péter la planète ou des villes ou quoi, lui, il a tout déboîté, quoi. Mais j'adore ce mec. Je me dis, ouais, tiens, on s'emmerde. Viens, on fait un truc avec une météorite qui arrive, elle va bousiller la planète, on envoie Bruce Willis. Vas-y, je valide. Et le mec, il te fait Armageddon, tu vois. Ou alors tu lâches Will Smith à Miami, il te fait un massacre, il fait tout péter pour Bad Boys. Moi, c'est le genre de film que je kiffe.
Avec nos
Mais
limites, quoi.
là, j'ai pas le droit de parler du projet qu'on a fait pour la série, mais c'est un truc qui n'a rien à voir avec les films d'action. Rien à voir. C'est un biopic série, quoi, si tu préfères.
Ok. Bon, écoute, tu nous feras la
Mais
com quand ça sort.
c'était hyper intéressant, quoi.
Trop bien.
Parce que voilà, c'est des
Cool.
projets qui sont nouveaux. Bah, c'est peut-être ça aussi, c'est le côté nouveau qui me fait kiffer. Je pense, mais il n'y a pas que la nouveauté, il y a le côté artistique, le côté créatif. Et c'est ça qui vient. Ben c'est ce qu'on aime faire de toute manière, sinon on ne ferait pas ce travail-là.
Carrément. Bon, comme tu le sais peut-être, je finis toujours par une question pour les personnes que j'interviewe, qui consiste à se rappeler un peu quand toi tu progressais. Donc toi, ça fait il y a 10 ans, mais ça peut être sur les 10 années qui sont arrivées, vu que tu as progressé de différentes manières dans le drone et dans les FPV. Est-ce que tu te souviens de soit d'un très bon conseil que tu aurais reçu, soit même d'une réalisation que tu as eue par toi-même, un truc qui t'a vraiment aidé à avancer et à progresser?
Qui m'a aidé à avancer, à progresser. Ouais, un truc tout con. Je me suis pété la clavicule il y a à peu près 10 ans. Et en VTT, truc con, j'ai fait une grosse chute, je me suis éclaté la clavicule droite. Et j'ai arrêté 5 semaines. Ça a été un peu l'élément déclencheur. Parce que c'est de là, en fait, que ça a commencé à se détériorer, là où je bossais avant. Et dans ma relation personnelle aussi. Donc, si tu veux, cet élément de ma vie, qui est un élément négatif, donc une fracture, m'a permis d'abandonner deux choses qui au final me pesaient et qui étaient négatives pour moi. Et de là, j'ai fait pas mal de simu, parce que je me faisais super chier à la maison. Autant te dire que bah, tu peux pas
Il y
sortir,
avait
tu peux
déjà
rien
des
faire.
simus?
Ouais, mais c'est simu à l'époque. Hein. C'est simu, je crois même c'était simu, c'était un simu d'hélico, un truc comme ça à la base. Parce que comme
Ok,
j'avais mes
d'accord. Oui,
premiers
parce qu'il y avait
avions
plus
que
de
je faisais
l'hélico à
voler,
l'époque, ouais.
moi je faisais beaucoup d'avions. Enfin, pas assez par rapport au boulot, mais là, vu que j'étais arrêté et que je pouvais rien faire, ben, je faisais du simu, je m'amusais. Et une semaine avant de reprendre le taf, etc., avec Chris, il venait me chercher, on allait voler. Et c'est là que je me suis dit, putain, j'ai amélioré mon truc. Donc là, tu vois, j'ai compris que le simu et que l'entraînement étaient importants. Quelques années plus tard, je crois que c'est quand Liftoff est sorti, je l'ai téléchargé. Et pareil, c'était l'hiver, on pouvait pas voler, c'était chiant. Et ouais, pareil, tu sais, je m'emmerdais, j'étais tout seul. Et j'ai fait pas mal de simu sur Liftoff, mais de la pure race, par contre. Hein, j'étais pas en mode chercher à faire des figures, des machins. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de race. Et après, bah, pareil avec Chris, quand on allait sur des races, il m'a dit, oh, putain, qu'est-ce qu'il... Même c'est lui qui me l'a dit, en fait. Moi, je l'ai pas forcément réalisé, parce que tu sais, quand tes évolutions, tu les trouves normales. Et c'est
Ouais.
Chris qui m'a dit, putain, qu'est-ce que tu as fait? Tu voles pas comme la dernière fois. Et il disait, bah, ça fait 2 semaines, je me tue sur le simul. Il dit, ah ouais, ça va et tout. Il dit, bah, ça se voit. J'ai beaucoup progressé parce que c'est là que tu apprends vraiment à anticiper les moves de ton drone et tout ça. Et la dernière fois, sur une presta, ça m'est arrivé, j'ai eu un blackout de la vidéo.
Ouais.
À ras du sol. Et en fait, ouais, tu sais, le truc instinctif, quoi. J'ai donné des coups de stick. Je savais, en fait, quand on donnait un petit coup à gauche, un coup de gaz, bam, ça allait monter. Et j'ai monté, j'ai rattrapé le drone à vue après à 50 mètres de haut. J'ai enlevé le masque, en fait, je l'ai rattrapé à vue comme ça.
Ouais, bah c'est bien,
Et le fait de
ouais.
gérer ça sans stress, parce que, tu sais, il y a un moment, en fait, le stress est secondaire. C'est-à-dire, c'est pas l'instinct de survie, mais en gros, t'as l'instinct qui va prendre le
Bah faut le
dessus.
gérer, quoi.
Mais t'as l'instinct qui va
Gère ta
prendre le
merde,
dessus.
quoi, tu vois.
Comme pareil, tu sais, des fois, sur ton Crossfire ou ton ELRS, t'as des micro-coupures où tu vas avoir des latences, tu sais, tac, tac, tac. Mais ça, pareil, quand tu t'y habitues, parce que t'as le drone qui est trop loin ou trop bas, ça arrive souvent en bagnole. Que bah, ton truc est loin, bah, tu sais que tu donnes un petit coup. Si t'es en virage à droite, tu donnes un petit coup à gauche, un petit coup de gaz, il va remonter. Faut pas donner 15 coups à gauche en disant ah putain ça marche pas, tu vois. Donc ça, c'est le genre de truc qui aujourd'hui, ben, je remercie toutes les galères que j'ai eues auparavant parce que ça m'a fait énormément évoluer dans ce style-là.
Trop bien. Est-ce que tu veux faire le point sur tes réseaux? Est-ce que les gens te suivent? Tout ça, tout ça.
Et ben alors, vous pouvez suivre ben, David Aspen sur Facebook, Team Mistral FPV sur Instagram, TikTok et Facebook aussi. Et bien sûr, Mistral Drone, ma page professionnelle sur Instagram ou mistraldrone.com. Si vous voulez le site internet ou si vous avez des requêtes de travail professionnel à me suggérer et si vous avez besoin de vidéos, tout simplement.
Carrément. Et on attend, comme chaque année, ton showreel, hein, en fin d'année. Hein.
Ben écoute, j'ai hâte, ouais, j'ai hâte parce que là, celui-là de showreel, ben déjà, je suis en train d'en préparer un autre, enfin, une pure bande démo, tu vois, avec tout ce
Ouais.
qu'on fait parce que là, le showreel que j'ai présenté, c'était purement du FPV comme d'habitude.
Ouais.
J'ai un autre showreel qu'un pote a monté pour moi avec un peu tout, et pareil, très dynamique. Et là, en fait, par rapport aux dernières prestations que je fais, etc., qui sont plus dans la pub, des trucs très luxe, faut que je fasse quelque chose d'un peu différent. Pour, tu sais,
Ouais, pour appâter d'autres clients, ouais.
ouais, en fait, quand on me demande des bandes démo, des fois, je suis là en me disant, putain, celle que j'ai, elle va pas correspondre à ce
À ce client-là.
client ou quoi, tu vois. Donc, j'envoie plus des vidéos
Ouais,
qu'on a
c'est
réalisées ou
important,
sur lesquelles on a participé, parce que oui, bien sûr, c'est la base du boulot.
ouais. Bah ouais. Ça met un peu de temps à faire, mais ça vaut toujours le coup au final.
Et donc, voilà, ben, voler un AK-47, si je peux vous conseiller ça, parce que c'est bien.
Hein. Carrément, trop cool. Et bah
Tu veux
écoute.
question setup ou question pas setup?
Ah bah vas-y, si t'as un setup à nous montrer, dis-nous.
J'ai un setup à te montrer. Mais d'ailleurs, j'ai le setup à te montrer en vrai, parce que je vole quasi qu'avec ça.
C'est vrai que
Donc,
je t'ai pas demandé. Vas-y, dis-nous avec quoi tu voles.
alors, frame AK-47,
Ouais.
parce que ben, elle a plus de 3 ans, mais elle fait toujours le taf. On va sortir une V2, faut qu'on trouve le temps de finir le design, qui sera assez similaire. On est en train de réfléchir un peu au cahier des charges de cette frame. Donc, AK-47, moteur Axis. Alors sur celui-là, j'ai les C246, donc les derniers en 2050 kV.
Ouais.
C'est violent. Et celle-là, je l'ai montée pour faire du free, en fait, pour m'amuser. Mais du coup, elle est neuve. Et sinon,
Ouais,
je vole avec
mais.
les Axis, les classiques, tu vois, les 22-7 1960 kV. Je trouve que c'est vraiment les moteurs les plus polyvalents au niveau de la souplesse en bas de gaz et de la puissance en plein gaz. Donc tu peux vraiment arriver à doser très bien
Tu
avec.
préfères
Et puis,
22,07 à 23,06, toi, ouais.
ouais. Et les 22-07, ils consomment rien du tout, en fait. J'ai déjà volé 7 minutes avec,
Ah oui.
sans aucun problème. Ouais, c'est un setup qui est vraiment pas trop énergivore. Au niveau des ESC, ben, les classiques Obi-Wing, hein, 60 A, qui maintenant se font en 65. Ou alors les Foxy Reaper, 65 A.
Bon, ça c'est très large, ça.
Ouais, on est large.
Ouais,
Sinon, sur celui-là, j'ai les Icon 55 A V3, je crois, un truc comme ça.
ok.
Et ben, Cadix Vista. Là, j'en ai monté un en O3 pour tester, mais j'attendais mes lunettes qui arrivent dans le deuxième colis qui va arriver tout à l'heure. GPS Matec, mais qui se fait plus, hein, parce que j'aime bien dans le FPV les gens quand ils arrêtent de faire les produits de qualité. Les bandes de cons. Crossfire, la base, si tu veux du signal fiable.
Ouais, j'aime bien aussi,
Un V-Fly Finder Mini, parce que ça peut servir quand il est dans des buissons. Et
ouais.
la FC, les gars, si vous voulez faire une attaque massive d'envoi de messages à Olibro, à leur dire qu'ils refassent la F7 HDV. Parce que c'était la meilleure FC du marché et elle ne se fait plus. Donc ils font la H7, mais on s'en bat les steaks de leur H7 à 120 balles. Je veux la F7 HDV qu'ils faisaient avant. Voilà.
C'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de différent?
Je sais pas.
Ok, c'est le
Tu montes
feeling,
ça
c'est
sur un
la
quad, ils volent
fiabilité.
nickel. Je ne peux pas te dire quoi, je sais pas, je suis pas chinois. Bon, je suis pas dedans, mais je te promets, sur la plupart des FC que j'ai utilisées, celle-là, c'était la plus fiable. T'as pas beaucoup de PID à toucher, t'as pas de parasites, t'as pas de résonance, c'est là, voilà, quand ça vole quasi sans rien toucher. Donc après, ouais, t'as la nouvelle Foxeer en MPU 6000 qui est cool. Ouais, c'est ça, la Foxeer F722 V4, je crois, MPU 6000,
Exactement,
qui est
ouais.
très cool. Sinon, ben, le problème des autres, c'est que ben, les autres Foxeer V2, V3, elles avaient pas de barreaux. Et barreaux, t'es obligé. Les Icon, elles avaient de barreaux bêtes, je crois. Mais c'était pas ouf. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, en fait, mon setup est là. Donc
Ok.
F7 HDV, mais que tu pourras jamais acheter parce qu'ils ne vont plus. J'en ai sur toutes mes machines, en plus, tu vois, j'ai dû en acheter une quinzaine à l'époque. Et là, par contre, j'en ai plus, il m'en reste qu'une seule d'occasion.
Et ta frame, parle-nous vite fait de ta frame.
L'AK?
Ouais.
Alors, on me demande souvent
Qu'est-ce qu'il
pourquoi
faut
tu vas en
savoir
AK et
dessus?
pas en Dragunov. Parce que le AK est plus petit, plus compact. Et
Ouais.
parce que j'aime bien avoir des sensations proches d'une machine de freestyle. C'est assez atypique. Si tu veux, ça va être un peu comme Rémi. Rémi, il aime voler en presta avec une machine de race parce qu'il retrouve un peu ses sensations. Moi, j'aime voler avec une machine de freestyle quand je retrouve des sensations. Le Dragunov, c'est une machine que j'adore aussi. Bah déjà parce que c'est moi qui l'ai dessiné, donc je ne peux qu'aimer le style.
Ouais.
Je kiffe beaucoup, mais ça va être beaucoup plus posé, tu vois, au niveau du pilotage, ça va être plus fluide, etc. Alors c'est très kiffant, mais c'est pas les sensations que je recherche parce que j'aime bien quand même avoir des
D'accord.
sensations quand je pilote, même en pro. Et voilà quoi, pour résumer tout ce que j'ai pu te raconter, t'as
Eh
de quoi faire
ben,
au niveau
écoute.
montage, je t'en ai raconté des conneries.
Eh ben, oui, bon, écoute. Je pense que les gens vont bien être contents. C'était un épisode bien sympathique avec toi, en tout cas.
Eh
Je te
ben
remercie, hein,
j'espère.
pour ta disponibilité et puis pour la
Avec
bonne
grand
humeur.
plaisir, merci à toi. Content de
Et t'as fait
participer,
venir
ben
le soleil
justement
dans le
à...
podcast, ça fait plaisir.
Merci à toi et merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes des malades.
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode en la compagnie de David. J'espère que vous avez apprécié sa bonne humeur et ses nombreuses anecdotes de tournage. N'oubliez pas qu'il y a Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour suivre le cockpit. En tout cas, d'ici 15 jours, je vous souhaite de très bonnes sessions de vol. Ciao!